RFI, les 16h à Paris, 2h de moins en temps universel.
Jean-Baptiste Marot.
Bonjour à toutes et à tous. Les 27 dirigeants de l'Union européenne sont réunis en ce moment à Bruxelles pour leur premier sommet depuis les élections européennes du début du mois. Au programme, la répartition des postes clés des institutions de l'UE, mais aussi la signature d'un accord de sécurité avec l'Ukraine. On y revient dans un tout petit instant. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la campagne pour les législatives en France. À J-3 du premier tour, un nouveau débat télévisé est prévu ce soir alors que le Rassemblement national continue de faire la course en tête dans les sondages et fait monter la pression en cas de victoire. On parlera aussi de la Bolivie dans ce journal. La Bolivie où un putsch militaire a été évité hier. Et puis aux États-Unis, c'est le premier temps fort dans la course à la Maison-Blanche. Un peu plus de 4 mois de la présidentielle de novembre, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden a lieu ce soir sur CNN. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont donc réunis à Bruxelles pour un nouveau sommet cet après-midi. C'est le premier depuis les élections européennes du début du mois. À l'ordre du jour, notamment, je vous le disais, la répartition des postes clés des institutions européennes, présidence de la Commission, présidence du Conseil européen, mais aussi poste de chef de la diplomatie commune. La signature d'un accord de sécurité avec l'Ukraine est également sur la table. La cérémonie a eu lieu il y a un peu plus d'une heure, cérémonie à l'occasion de laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs été invité à Bruxelles. Je vous propose tout de suite d'écouter sa première réaction à la suite de cette signature.
On doit commencer à travailler sur les prochaines étapes. Nous discuterons donc aujourd'hui avec les dirigeants de nos prochaines étapes et bien sûr des questions urgentes, la défense aérienne par exemple. Et bien sûr tous les paquets grâce à tous les partenaires. Ce que nous avions, nous l'avons signé ou accepté, mais nous en avons besoin de toute urgence sur le champ de bataille. Et je veux discuter avec eux de notre prochaine étape, préparer un deuxième sommet pour la paix. Je pense que c'est important, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après la signature de l'accord de défense entre Kiev et l'UE, tout à l'heure, propos recueillis par l'envoyé spécial de RFI à Bruxelles, Julien Chavanne. Le sommet européen de Bruxelles, où tout le monde a bien sûr en tête les élections législatives anticipées qui vont avoir lieu en France, c'est un peu le fantôme dans le placard, d'autant plus qu'à 3 jours du premier tour, l'extrême droite continue de dominer les sondages et semble de plus en plus confiante en sa victoire. On le voit par exemple aujourd'hui avec cette déclaration de Marine Le Pen dans le quotidien régional Le Télégramme. Elle y affirme, je cite, que pour le président de la République, le titre de chef des armées n'est qu'honorifique. Une sortie qui donne le ton de ce que serait une cohabitation avec Jordan Bardella à Matignon, Pierrick Bonneau.
Je serai intransigeant mais respectueux des institutions et de la fonction de chef de l'État. C'est en ces termes que Jordan Bardella envisageait lundi devant les journalistes son rôle à Matignon, une position d'apaisement à laquelle Marine Le Pen donne un premier coup de canif en prétendant que le titre de chef des armées est simplement honorifique. Celle qui se verrait bien succéder à Emmanuel Macron semble préparer les esprits à une cohabitation beaucoup plus dure. Marine Le Pen, qui n'est pas à une contradiction près, précise sur le réseau social X qu'elle ne remet cependant pas en cause le domaine réservé du président, mais qu'en matière d'envoi de troupes à l'étranger, le Premier ministre a le moyen de s'y opposer grâce au contrôle du budget. En clair, s'il arrive à Matignon, le jeune patron du RN compte bien tenter de bloquer l'action d'Emmanuel Macron, notamment s'il veut intervenir militairement en Ukraine. Si nous arrivons au pouvoir, ce n'est pas pour faire semblant, abonde le vice-président du parti Sébastien Chenu. Le président de la République et les électeurs sont prévenus.
Immédiatement après cette déclaration, la chef des députés RN à l'Assemblée a provoqué un tir de barrage des macronistes, de François Bayrou, le patron du Modem et proche allié d'Emmanuel Macron, à Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées. Ce jeudi, la campagne pour le premier tour des législatives est par ailleurs marquée par un nouveau débat télévisé ce soir, cette fois sur France 2. Comme mardi sur TF1, il opposera à nouveau Jordan Bardella et Gabriel Attal pour le Rassemblement National et pour la majorité sortante. Pour le nouveau Front Populaire, en revanche, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, cède la place à Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. La campagne pour les législatives qui coïncide aussi avec le premier anniversaire du déclenchement des émeutes dans l'Hexagone, vous vous en souvenez sans doute, c'était le 27 juin 2023, il y a un an, jour pour jour, à la suite de la mort de Naël, un adolescent de 17 ans, tué au volant d'une voiture d'un tir à bout portant lors d'un contrôle de police en banlieue parisienne. Immédiatement érigé en nouveau symbole des violences policières, le drame débouchait sur 8 jours de violences nocturnes dans de très nombreuses civile du pays. Les condamnations de la tentative de coup d'État en Bolivie se multiplient aujourd'hui. Paris ou encore Moscou viennent de la dénoncer, une tentative de putsch survenue hier à La Paz, quand le chef de l'armée, le général Zuniga, amassait des hommes et des blindés devant le palais présidentiel avant d'être rapidement arrêté. Précision, Christophe Paget.
Quelques heures avant son arrestation, le général Juan José Zuniga faisait avancer ses hommes en rang serré dans les rues de La Paz jusqu'au palais présidentiel, dont un véhicule blindé a ensuite tenté d'enfoncer la porte. Le général affirmait vouloir restructurer la démocratie, il promettait un nouveau gouvernement. Mais en province, ni l'armée ni la police ne l'ont suivi et les condamnations ont été unanimes dans le pays comme à l'international. Juan José Zuniga a finalement été arrêté. Depuis mardi, des rumeurs circulaient déjà sur le fait qu'il pouvait être démis de ses fonctions après une interview dans laquelle il avait affirmé sa volonté d'arrêter l'ancien président Evo Morales s'il continuait à vouloir se présenter à la prochaine présidentielle alors que la justice le lui a interdit. Evo Morales est l'ancien mentor de l'actuel président Luis Arce, mais les deux hommes ne s'entendent plus. Evo Morales l'a exclu de son parti, le MAS, l'an dernier, et il pourrait être adversaire lors de la prochaine présidentielle. En tout cas, hier, ils étaient unanimes pour condamner la tentative de coup d'État, ce qui n'a pas empêché le général Zuniga, avant d'être arrêté, de tenter de semer le doute en affirmant qu'il avait agi sur ordre du président Arce.
L'actualité des Amériques, c'est aussi le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden ce jeudi, à bientôt 4 mois de la présidentielle de novembre aux États-Unis. Je vous le disais en titre, il aura lieu à Atlanta, dans les locaux de CNN, un débat que le président sortant prépare depuis plusieurs jours déjà dans sa résidence de Camp David, à côté de Washington. Les États-Unis, où 2 pandas géants en provenance de Chine sont attendus aujourd'hui au zoo de San Diego, en Californie. C'est une première depuis 20 ans. Le couple de plantigrades s'est envolé hier soir de la province du Sichuan pour un voyage de 11 000 km. Leur arrivée aux États-Unis est un symbole fort, un symbole qui témoigne d'un certain réchauffement diplomatique entre Pékin et Washington, Yelena Tomic.
La diplomatie du panda est un formidable marqueur de la qualité des relations que la Chine entretient avec les pays hôtes. Lorsque Pékin prête des ursidés, c'est le signe que les relations sont bonnes et que la Chine souhaite les améliorer ou tisser des liens. À l'inverse, lorsque le partenariat est rompu sur initiative chinoise, cela signifie que les relations se sont détériorées. Entre la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, l'abattage de ballons espions chinois présumés dans le ciel américain ou la vague de sanctions américaines contre la Chine, quasiment plus aucun zoo américain n'accueillait de pandas suite à l'expiration des différents accords de prêt qui n'ont pas été renouvelés. La tradition remonte à 1972, lorsqu'en pleine guerre froide, le président Nixon a rendu visite à la Chine, ce qui a ouvert la voie à des décennies de pandamania aux États-Unis. Le zoo de San Diego figure parmi les premières institutions américaines à avoir coopéré avec la Chine dans le domaine de la recherche sur les pandas géants. Tout est prêt pour accueillir Yu Chuan et Xin Bao, qui resteront plusieurs semaine à l'abri des regards du public, le temps nécessaire pour s'acclimater à leur nouveau lieu de vie pour les 10 prochaines années.
Les explications de Yelena Tomic sur RFI. Enfin, un mot d'économie avant de refermer cette édition. La France va racheter la filiale d'Alcatel dédiée aux câbles sous-marins, ces câbles en fibre optique qui servent en particulier à relier les réseaux Internet d'un continent à l'autre. Alors que depuis son rachat par Nokia en 2015, Alcatel est passé sous pavillon finlandais. Le gouvernement français préfère en effet garder la main sur cette branche qu'il considère comme hautement stratégique, Justine Fontaine.
L'État français va racheter 80% du capital d'Alcatel Submarine Networks. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Économie ce jeudi. Aujourd'hui, près d'un tiers des câbles sous-marins déployés dans le monde ont été posés par cette branche du géant finlandais Nokia, qu'il avait acquise en 2015, en même temps que le reste de l'entreprise de télécom française Alcatel. La France considère que cette activité est stratégique et n'a pas souhaité qu'elle soit revendue à des sociétés américaines ou japonaises qui faisaient partie des repreneurs potentiels. Si ce domaine est perçu comme sensible, c'est parce que près de 99% des communications Internet transitent par des câbles sous-marins de fibre optique, soit d'un endroit à un autre d'un même pays via ses côtes, soit le plus souvent d'un pays à l'autre et même d'un continent à l'autre. Les concurrents d'Alcatel Submarine Networks et de ses 2000 salariés sont américains et japonais donc, mais aussi chinois, tandis que les câbles en eux-mêmes appartiennent dans la majorité des cas aux GAFAM pour Google, Amazon ou encore Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram.
Justine Fontaine du service économie de RFI, et sachez par ailleurs qu'un peu plus tôt ce mois-ci déjà, la France a également fait une offre pour racheter les activités stratégiques du groupe Atos, qui est lui en charge de la cybersécurité des JO de Paris. C'est la fin de cette édition 16h10. Dans quelques secondes à Paris, vous retrouvez tout de suite Anne-Cécile Bras pour C'est pas du tout.